Chapitre 26. Comptez les mailles. Voilà 3 jours que Karine et Rémi se précipitent dans chaque interstice de temps libre pour aller creuser. 3 jours qu'ils se relaient pour remplir des seaux et les déverser à la surface. Le monticule de terre grossit, alors que le trou ne semble pas s'approfondir. Karine est souple et capable de se faufiler entre les pierres. Moins agile, Rémi est plus puissant pour soulever le seau. Ils alternent et se complètent. 3 jours également qu'Adrien est morose. La tension monte. Il trouve les fouilles inutiles et elles commencent à occuper trop d'espace en temps et en discussion. Adrien a surtout besoin que tout soit prêt pour accueillir les animaux. La petite machine à traire individuelle a été livrée, les parcs prennent forme, le bâtiment s'achève doucement. Les derniers détails sont les plus chronophages. Cet escalier vers nulle part lui importe peu, bien moins en tout cas que l'attitude de Capucine, qui semble de plus en plus triste. Elle lui a annoncé qu'elle partait s'occuper des ruches, a décliné sa proposition de l'accompagner, prétextant un besoin de solitude. Il se sent soudain perdu, délaissé et inutile. Seule Clémence, que les fouilles n'intéressent pas, reste motivée pour l'aider au jardin. Attentive à ses explications, elle s'émerveille de la puissance de la nature. Elle ne l'a pas cru quand il lui a affirmé qu'il y avait autant de bactéries dans une poignée de terre que d'humains sur la planète. Il a dû lui montrer le livre dans lequel il avait trouvé l'information. Elle le lui a emprunté. Souvent, il l'observe de loin, évoluer dans le potager. Elle regarde chaque tortillon qui s'élance depuis les tiges des pieds de melon ou de concombre, teste leur résistance quand ils s'accrochent au premier tuteur venu. En est impressionnée. Elle respire le parfum des fleurs de chèvrefeuille, des roses, du seringa, en fermant les yeux. Ces déambulations sont un poème et Adrien les reçoit comme un baume sur le cœur. Clémence ne se raidit qu'en présence des insectes. Elle a peur de tout ce qui pique, de tout ce qui bourdonne, de tout ce qui est imprévisible et peut agresser sans raison. Karine imagine 1000 scénarios. Un souterrain qui traverse la montagne, des squelettes de soldats inconnus, des bijoux enfouis, une cave de grands crus. Se réveille en elle la petite fille aventurière qui accompagnait ses cousins dans la forêt à la recherche de sensations fortes au creux des cavités entre les rochers à la nuit tombée, à une époque où l'on acceptait encore que les enfants errent seuls, leur épée en bois à la main et leur liberté en bandoulière comme un bouclier contre la peur. Des racines apparaissent désormais entre les pierres. Dans les entrailles d'un sol où les végétaux ne demandent qu'à prospérer, le vivant a repris ses droits sur la roche depuis des années. Karine aime ces moments avec Rémi. Elle a envie de lui plaire. Elle voudrait qu'il ait de la tendresse pour elle, et pourquoi pas de l'attirance. Il est beaucoup plus jeune, mais justement, le plaisir de se sentir désiré n'en serait que plus puissant, alors qu'il n'a Dieu que pour Clémence et ne cesse de se préoccuper d'elle. A-t-elle assez mangé? A-t-elle bien dormi? Que va-t-elle faire aujourd'hui? Peut-il l'aider? Karine aussi a besoin qu'on s'enquière de son sommeil, de ses repas, de ses besoins, de ses envies, de son corps, de son cœur. La seule attention que Rémi lui porte se résume à un regard critique et inquiet dès qu'elle se sert à boire, ce qui l'agace prodigieusement. Karine ne boit que pour le plaisir, elle n'en a pas besoin. Qu'on le foute la paix avec les réjouissances de la vie. Les plaisirs de la chair lui manquent terriblement. Sentir le souffle d'un homme dans son cou, son sexe dur entrer en elle, deux larges mains pétrir ses fesses, ses seins, la tenir par la taille pour guider les mouvements de son bassin, haleter ensemble, le cerveau enivré d'hormones, et retomber sur les draps humides, béat d'avoir joui sauvagement au nez et à la barbe du monde. Karine n'aime pas vraiment le sexe calme, le sexe pâle, les étreintes timides et les caresses délicates. Elle aime qu'on la bouscule, qu'on la chahute, qu'on la contraigne, qu'on la saisisse. Mais qu'elle y consente. Tout est affaire de nuance entre l'amant fougueux et le pervers. Cette nuance dont elle a longuement parlé avec le psy pour se préserver de ses propres failles, Elle sait désormais que certaines attirances sont périlleuses et nocives, qu'elle doit apprendre à jouer avec ce feu qui la maintient en vie, sans pour autant se brûler. Trouver la zone tempérée. Le médecin lui a appris à accepter l'idée de renoncer à quelques vibrations du corps pour préserver son âme, à ne pas se jeter dans la gueule du premier prédateur venu sous prétexte de se sentir exister. L'idée aussi d'oser prendre des risques tout en sachant fuir face au danger. Elle n'a pas encore mis en pratique la théorie. Pas d'amant à l'horizon. À 45 ans, sans travail, les opportunités de rencontre ne sont pas légion. La traversée de ce désert sans chair s'éternise et elle commence à avoir soif. Alors elle cherche d'autres plaisirs. Rémi creuse, sans la regarder. À la ferme, l'après-midi est calme. Après l'effervescence des foins, celle des naissances, avant l'arrivée des chèvres, les moments paisibles permettent de se ressourcer. Jeannot est venu aider Adrien à réparer l'endaineuse, retaper le mécanisme et changer quelques dents cassées. Ils sont dans la courette, à l'arrière, tout près de l'atelier. Paul l'a accompagné pour ne pas rester seul à la maison, couple fusionnel qui, même après 50 ans de mariage, se tient la main en marchant, comme deux adolescents qui ne veulent pas se lâcher. La retraitée passe le temps installée dans une chaise longue à l'ombre du pommier, son ouvrage de crochet dans les mains. Clémence l'observe depuis le balcon de la grange, dissimulé derrière le rideau. Elle voit les doigts gigoter dans un mouvement rapide et régulier. Intriguée, elle décide de s'approcher. Descend les escaliers, sort de la maison et se cache derrière le tronc du saule pleureur qui trône à l'entrée du jardin. Paul s'arrête parfois, sort le crochet de l'ouvrage et l'utilise pour compter quelque chose, puis reprend de plus belle. Clémence aimerait savoir ce qu'elle calcule. Elle s'approche encore un peu, cueille quelques fleurs au bord de l'allée pour se donner une contenance, excuser sa présence, brouiller les pistes de son affût. « Tu peux venir, Clémence, je ne mords pas. » Alors la jeune fille s'approche sans un mot, les fleurs à la main. Elle s'assoit sur le muret et observe chaque détail. Elle aime l'entrelac des fils de coton échappés des différentes pelotes. Des couleurs pastels, d'autres plus vives, qui se côtoient dans le panier en osier, suffisamment imparfait pour laisser penser qu'il est fait maison. La petite poche est en cuir, solidement fixée à l'anse et qui contient des crochets de différentes tailles, une paire de ciseaux, une aiguille au large chat, et des carrés, des ronds, des triangles multicolores dont les mailles dessinent des motifs et autant d'arc-en-ciel inédits. « Tu sais crocheter ?»«
Non. »
Tu n'as jamais eu envie d'essayer?
Je connaissais pas. Ça sert à quoi?
Le crochet. À réaliser de jolies créations. À faire quelque chose de ses 10 doigts. À prendre du temps pour soi. Tu veux que je t'apprenne?
Je n'y arriverai jamais.
Tu aimes compter? Compter n'est pas un plaisir chez Clémence, mais une nécessité, un acte de survie rassurant, enveloppant. Des jalons posés pour remplir l'espace, le rendre moins flou, lui donner une existence, un cadre, comme pour recoller le sien, éclaté en 1000 morceaux. Compter, 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 pour avoir le sentiment de compter. Paul pose son ouvrage dans le panier, attrape une pelote de fil un peu plus épais, un crochet numéro 4 et l'étend à Clémence. Une autre pelote et un crochet numéro 3 pour elle. « Approche la petite chaise en fer forgé qui est là-bas et installe-toi à côté de moi. Nous allons faire ensemble. Tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de points à connaître. Une fois que tu auras eu le déclic, tu ne pourras plus t'arrêter. » Avec une patience d'ange, Paul exécute les gestes au ralenti pour montrer comment enrouler le fil autour des doigts afin de maintenir une tension permanente sans gêner le glissement. Puis, elle lui apprend à faire un nœud coulant. Clémence est prête. Le crochet enfilé, le fil emberlificoté entre ses phalanges longues et maigres. Fébrile, elle attend les instructions. Paul lui enseigne le jeté, la maille en l'air, pour réaliser une chaînette. Clémence commence. Tremble. Hésite. Tire trop sur le fil, puis plus assez. Il tombe. Elle le remet, Il retombe. Les mailles sont irrégulières, trop lâches ou trop serrées, mais elles existent. Avec 1000 précautions pour ne pas la bousculer, Paul la pousse à défaire les mailles, puis à recommencer, 3 fois, jusqu'à obtenir une base régulière de 10 mailles. On n'apprend pas le crochet sur des approximations. Capucine est rentrée en nage sous sa vareuse. Elle a aperçu les 2 femmes sous le pommier. Elle sait que le beau soigne, que le beau pense, qu'il épanouit et qu'il compense. Elle en a besoin plus que jamais. Elle a constaté avec joie que la petite mange un peu mieux qu'au premier jour. Elle aime les œufs, goûte les légumes à peine cueillis au milieu du potager, a découvert les petits pois bien rangés dans leur cosse, si jeunes qu'ils sont encore sucrés. Elle en croque par-ci, par-là. L'autre soir, Rémi l'a surnommée la princesse aux petits pois. Ignorant ce conte, elle a cherché, s'est reconnue dans cette sensibilité exacerbée. Elle participe à l'élaboration des repas, apprécie la saveur des plats, du bout des lèvres, comme si elle se fabriquait un catalogue de goûts. Elle lutte aussi contre les réflexes ancrés en elle depuis tant d'années, comme tatoués sur son estomac. Ne jamais se resservir, laisser la moitié de l'assiette pleine, fuir le sucre et le gras. Désormais, elle reprend une cuillère quand elle aime vraiment. Elle sait monter une mayonnaise et caler un œuf dur. Elle en extrait le jaune orange, les miettes, le mélange à la sauce veloutée, remet le tout dans le demi-blanc dont la cavité parfaitement ronde lui rappelle sa palette de peinture sur laquelle elle crée de nouvelles couleurs. Même si elle ne mange pas 2 mimosas, elle est ravie d'en préparer. Et parfois, elle apporte un œuf encore cru dans son alcôve, sépare le blanc du jaune et peint un vrai mimosa sur un fond de ciel bleu. Même si des efforts étaient faits pour la rendre alléchante, la nourriture de l'hôpital était presque une punition. Ici, elle est une œuvre d'art. Clémence tient les couteaux comme elle tient son pinceau. Ou comme elle tient son crochet en ce moment même, pour fabriquer quelque chose de ses mains. Ses mains qui ont perdu trop tôt l'empreinte de celle maternelle qui tenait bon, qui protégeait, qui montrait le chemin. Ses mains qui l'ont fait vomir, qui l'ont scarifié, qui ont refusé de tenir une fourchette. Ses mains aujourd'hui qui cueillent, creusent, peignent, déplacent des poules rebelles, conduisent un tracteur, tiennent un râteau, saignent et cicatrisent. Ses mains qui s'étirent le matin et frottent des yeux heureux de s'ouvrir avec le soleil. Clémence a appris la patience depuis son enfance, ne serait-ce que celle d'attendre que le temps passe. La petite fait preuve d'un calme délicat, d'une attention aiguisée, d'une présence forte et solide dans l'instant partagé. Paul en est touché. Le mercredi après-midi, durant les ateliers bricolage du village, elle accompagne souvent des enfants qui ne tiennent pas sur leur chaise plus de 10 minutes, qui perdent pied dès qu'il faut rester concentré plus de 5. Des enfants qui crient, qui gigotent, s'impatientent, lâchent tout pour aller bousculer le camarade plus petit qui les a provoqués. Paul aime partager sa passion du crochet, surprendre ce moment magique où l'élève comprend. Quel enchantement de voir Clémence qui, le sourire aux lèvres, s'est mise à accélérer ses mouvements sans rechigner à défaire pour refaire en mieux. Jeannot revient bientôt, sa boîte à outils dans la main, satisfait du travail accompli. Adrien pourra endainer le regain. Tout tient. Le temps a filé. Et Clémence ne l'a pas vu passer. Elle a monté des rangs, 2 heures durant, des mailles serrées, des demi-brides, des brides, des doubles, des changements de couleur et quelques subtilités. Paul avait raison. Une fois que l'on a compris le principe, la pratique est aisée et addictive. Clémence n'a plus envie de s'arrêter malgré la douleur dans ses phalanges, peu habituée à être ainsi contractée. Les minuscules muscles de ses doigts sont tétanisés. La séance s'achève sur l'apprentissage des fils à dissimuler. Un petit carré de coton crocheté est né de ses mains incertaines. Elle ignore ce qu'elle pourra en faire. Paul lui suggère un carré à démaquiller ou une petite éponge. Elle préfère qu'il devienne un support pour poser ses pinceaux. Il fera office de trophée, car c'est le premier. Et elle sait qu'elle aime compter les mailles. Compter, compter.